étaient tous des jeunes photographes, plus ou moins jeunes. Et quand on était aligné avec les troupes américaines et qu'on assistait au bombardement qui préparait l'assaut et qu'on voyait le napalm brûler toute une colline, on pensait souvent à nos confrères d'en face en disant on se demande comment ils peuvent survivre à de tels bombardements.
Juste une question de survie ce soir dans le rendez-vous sur France Culture. Il sera question de romans familial, d'afropolitain, de partitions musicales, du Ghana, de la Tchétchénie, d'objectifs et même de chiens qui toussent. Avec Patrick Chauvel qui signe la préface de Ceux du Nord, un album de photos prises par les reporters nord-vietnamiens entre 1966 et 1975. Manu Farine.
Portrait d'un reporter de guerre pour qui l'ultime forme de reportage est la fiction, étant entendu que journalistes comme combattants sont avant tout des acteurs.
19h30, la session live du vendredi, une session pop ce soir, Lucille Como.
Oui, session pop avec Myra et Mr Mo, tout jeune groupe. Ils étaient venus dans notre studio il y a quelques semaines enregistrer un titre, Run.
19h35, plateau afropolitain avec Thaïs Selassie qui signe Le ravissement des innocents, un roman d'une famille travaillée par le secret de l'inceste, une épopée entre les États-Unis et le Ghana, Manu Farine.
Un roman construit comme une symphonie en trois mouvements, un chaotique, un rigide et un ample avec apothéose et même un silence.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le supplément week-end de Benoît Lagan, puisqu'on est vendredi, et l'on ouvre sur le son du jour de Zoé Sfez. Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent Goumard, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour et manifestement il ne date pas d'hier.
Non, alors il est musical, il est même plutôt vieux, très très vieux. Vous entendiez deux étudiants de Cambridge qui ont transcrit et qui interprètent une partition assez exceptionnelle. Partition retrouvée dans un manuscrit conservé à la British Library par Giovanni Valelli, étudiant en doctorat sur la musique ancienne. Alors cette partition, elle a été écrite il y a près de 1100 ans. C'est la plus ancienne trace de musique écrite à l'intention de plusieurs chanteurs. Ces quelques secondes de chant polyphonique étaient inscrites au pied d'une page sur la vie de l'évêque Maternianus de Reims. Et elles évoquent une prière en l'hommage de Saint Boniface. Alors si l'origine du manuscrit, comme le nom de son auteur, reste inconnue, Giovanni Valelli suggère qu'il pourrait provenir d'un monastère de la région Düsseldorf. Jusque-là, la plus ancienne partition polyphonique retrouvée datait du XIIe siècle.
Merci Zoé, on se retrouve en 2015 maintenant, puisque c'était votre dernier journal de la culture aujourd'hui.
Avec plaisir.
Oui, je l'ai partagé, soyez-en sûrs. On poursuit ce journal de la culture avec le supplément week-end. Bonsoir Benoît Lagan.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
Et pour commencer, votre séquence du téléspectateur hebdomadaire.
Et demain, Laurent, eh bien cela fera tout juste 3 mois que la France vit à l'heure de Netflix, vous savez, ce vidéoclub numérique américain disponible sur Internet et dont l'arrivée a été largement médiatisée en septembre dernier. On s'en était largement fait l'écho dans ce journal. Eh bien, à cette occasion, j'ai décidé d'en savoir un petit peu plus sur le fameux géant américain.
Alors, pour nous en parler, qui avez-vous donc contacté ?
Eh bien, partant du principe qu'il n'y a pas qu'à Paris que l'on a un avis, pour en savoir plus, j'ai téléphoné aux États-Unis auprès de ma correspondante américaine, Séverine Barthes, spécialiste des séries télé et maître de conférences à la Sorbonne Nouvelle. Séverine s'est donc abonnée à Netflix et voici ce qu'elle en a pensé.
Quand au début on regarde Netflix américain et qu'on commence à regarder un petit peu les séries qu'on aimerait revoir, qu'on joue un petit peu avec le moteur de recherche, etc., etc., il y a un premier effet de waouh, il y a plein de choses. Notamment, il y a pas mal de séries assez anciennes, des séries pour certaines qu'on n'a jamais vues en France ou qu'on a vues il y a très très longtemps, diffusées de manière erratique, etc. En revanche, dès qu'on se met un petit peu à chercher davantage, on voit très vite les limites de Netflix. Il y a deux niveaux, il y a à la fois sériephile, alors là en tant que juste sériephile, j'avais déjà pas mal de choses à rattraper, mais en tant que chercheuse et ayant besoin d'aller chercher parfois un épisode précis d'une série précise pour un projet de recherche ou pour un article que j'écris, très vite on se rend compte des trous. Par exemple, Chicago Hope, grande série médicale, l'ennemi juré d'urgence, urgence qui n'est pas plus d'ailleurs sur Netflix. Donc là, il faut se tourner vers d'autres services. Par exemple, il y a Hulu, qui, pour le coup, a un catalogue assez intéressant et fourni. Hulu a commencé comme un service un petit peu de catch-up TV, c'est-à-dire comme un service de rattrapage avant que les chaînes n'investissent ce créneau. Et donc, Hulu était à l'origine un site sur lequel vous pouviez aller et voir les épisodes de Desperate Housewives, par exemple, qui venaient de passer sur ABC ou ce genre de choses. Et je pense qu'ils ont donc, avant Netflix, commencé à s'intéresser à acheter des catalogues. De ce fait, je pense qu'ils ont pu prendre au nez et à la barbe de Netflix un certain nombre de choses.
Et pour conclure ce supplément, eh bien, c'est votre revue d'actualité qui prend cette fois des allures de calendrier de l'Avent.
Effectivement, Laurent, j'ai décidé de vous sélectionner quelques objets culturels à voir ou à revoir afin de bien préparer vos fêtes de fin d'année.
Et donc, en attendant Noël, ce sera Dorothy.
En effet, dès demain, samedi 20, et ce jusqu'au 28 décembre à Paris, au Palais des Congrès, petits et grands pourront assister à l'une des 14 représentations du Magicien d'Oz, la célèbre comédie musicale américaine. L'occasion notamment pour ceux qui ne sont pas parisiens de revoir le film de Victor Fleming de 1939. Alors recréé en 2011 à Broadway, le célèbre conte de L. Frank Baum est proposé sur scène pour la première fois en France après un passage par les théâtres musicaux de Londres. Cette adaptation française est signée Stéphane Laporte qui avait déjà adapté en France Mamma Mia, Fame, Frankenstein Junior ou encore Un violon sur le toit. Point positif, Laurent, la méchante sorcière sera interprétée par Natacha Saint-Pierre.
C'est un point positif. Et en attendant, Noël, ce sera aussi Plus belle la vie.
En effet, Laurent, mercredi soir de Réveillon, ressort en salle en version restaurée le très beau film de Frank Capra, La vie est belle.
Oui,
une bonne
sûr.
Occasion pour James Stewart, alias George Bailey, de voir une nouvelle fois ses vœux exaucés.
Clarence! Help me, Clarence! Get me back! Get me back, I don't care what happens to me! Get me back to my wife and kids! Help me, Clarence, please! Please! Merry Christmas!
Well, Merry Christmas!
Merry! Merry! Yay!
Vous êtes vraiment un grand enfant.
Non, je suis un cinéphile.
Oui, c'est ça. En tout cas, j'ai un vœu, je sais qu'il sera exaucé.
Ah oui?
Ne plus vous voir jusqu'en 2015.
Ah mais non, on va faire des tables rondes.
Ah ben oui, c'est vrai.
Ensemble.
Ah mais j'en ai pas fini.
La semaine prochaine.
Mais ça sera quand les vacances?
Ben je ne sais pas, peut-être le 31 décembre.
Ben peut-être. Merci Benoît, bon week-end alors, à lundi.
Bon week-end.
19-20, le rendez-vous.
Rendez-vous.
C'est sur France Culture.
Plateau Reporter de guerre avec Patrick Chauvel qui signe la préface de Ceux du Nord, un album de photos prises par les reporters nord-vietnamiens entre 1966 et 1975, pendant la guerre du Vietnam. Vous l'aviez rencontré, Manu Farine, à l'occasion de la sortie du livre pour le questionnaire du lundi.
Oui, je l'avais rencontré à Paris, dans sa maison, qui abrite aussi la Fondation Patrick Chauvel, en cours de préfiguration, et qui devrait rassembler les quelques centaines de milliers de clichés pris en presque 50 ans de terrain.
Un questionnaire donc, et alors à l'écoute de ses réponses, eh bien on a décidé de diffuser l'intégralité de cet enregistrement. Questionnaire reporter de guerre, Patrick Chauvel, Manu Farine.
Première expérience de terrain?
C'est 67, la guerre des six jours. Donc, moi je n'étais pas journaliste évidemment, j'avais 17 ans. Hein. Mais j'ai appris par mon père et par... parce qu'il était reporter, mon grand-père était diplomate. Mon oncle, c'était chez Norfer, et il était caméraman à ce moment-là pour Pathé Journal. Il revenait de l'Indo, où il avait été pour le service cinéma des armées. On sentait que la guerre, l'agressivité s'accumulait autour d'Israël, l'Égypte, la Jordanie. De tous les côtés, ça commençait à bouger, la Syrie. Et Israël mobilisait. Et à un moment donné, il y a eu une pub, un appel d'Israël qui demandait des volontaires pour remplacer leurs soldats dans les champs, dans les kibbutz, parce que tous les hommes avaient été mobilisés, donc ils n'avaient plus de bras. Et là, j'ai eu l'opportunité d'un voyage gratos, hein, donc Paris-Brindisi en train, Brindisi-Haïfa en bateau, tout ça avec des chants en hébreu, des guitares, c'était extraordinaire. Et arrivé à Haïfa, des camions militaires, des colliers de fleurs, et chacun est parti dans un kibbutz différent. Moi, je me suis retrouvé à Yagour, qui est un des plus grands kibbutz de la Galilée. J'ai bossé pendant 8 jours. Là, j'ai regretté amèrement mon initiative parce que c'était épuisant. Quoi. Ramasser des oranges de 4h du matin à midi, c'est un truc de fou, en fait. Et puis la guerre a éclaté. Et là, j'ai fait le mur avec 2-3 juifs qui étaient dans le camp. Moi, je n'étais pas juif, mais eux, oui. Et eux, ils étaient venus se battre. Et on a fait le mur, on a fait du stop et on est remonté vers le front. À ce moment-là, c'était... très aléatoire, très facile en fait, on montait dans les gyms, dans les camions. Et donc j'ai assisté à quelques combats, j'ai fait plein de photos avec mon petit Leica, enfin plein, j'avais 2 films. Je les ai toutes ratées, sauf 3. J'avais donné mon appareil photo à un soldat israélien qui lui m'a pris en photo, mais il savait s'en servir lui. Donc j'ai la preuve que j'y étais, c'est à peu près tout ce qui reste de ce reportage. Donc ça, c'était la première expérience, le premier mort au combat, enfin, la première fois que je croise des journalistes sur le terrain. Donc pour moi, était une espèce de héros couvert de poussière sur les tanks. Et quand je suis rentré à Paris, j'ai compris que c'était un métier quand même, donc je suis rentré comme stagiaire au labo de François pour apprendre comment marchait ce machin, là, le Leica. Et voilà. Puis après, bon, quand j'ai accumulé un peu d'argent et un peu d'expérience en photo, en faisant l'anniversaire de Nicoletta, la première voiture de Johnny Hallyday, des bagarres chez Régine, enfin des trucs comme ça, je suis parti à Saigon en 68. Là, j'avais 18 ans, mais là, je savais servir de l'appareil photo.
Le jour où vous êtes devenu reporter de guerre?
C'est-à-dire qu'au Vietnam, je m'amusais beaucoup. Les soldats américains à mon âge ont monté dans les hélicoptères, ont volé à 300 km/h au ras des rizières avec la musique à fond. On risquait notre vie en courant. Enfin, il se passait plein de choses. Ensuite, on allait à Saigon. On était entouré de filles, de bière et de shit et de tout ce qu'il fallait. Et ensuite, on reprenait l'hélico, on repartait au combat. Et donc, tout ça était très amusant. J'étais évidemment totalement invincible. Et puis, un jour, je suis tombé sur un prisonnier vietnamien. Et j'ai trébuché sur une liane, et il a compris que j'étais français parce que j'ai crié merde. Il était attaché, mais pas bâillonné. Il m'a appelé. C'était un commissaire politique, je m'en souviens à peu près. Il parlait parfaitement le français, il avait fini ses études à la Sorbonne. Et il m'a demandé ce que je foutais là, qui j'étais. Il devait avoir une quinzaine d'années de plus que moi, il devait avoir un peu plus de 30 ans à peine. Et il m'a expliqué sa lutte, son combat. Et je ne l'aimais pas, c'était l'ennemi. Et il m'a expliqué que les Américains avaient tort, etc. Donc je l'aimais encore moins. Et à un moment donné, il a été remis à l'armée sud-vietnamienne et ils l'ont exécuté. Parce que nous, il fallait qu'on avance. Et l'officier américain, j'ai dit, mais vous n'allez quand même pas le... Puis nous, non. Mais les Vietnamiens entre eux, oui. Et on ne peut pas le garder parce qu'il faut qu'on avance. Et on ne va pas le nourrir, on ne va pas le laisser attacher à un arbre. Et on ne va pas faire venir un hélicoptère pour lui non plus. Donc il a perdu, dommage. Et là, d'un seul coup, je n'aimais ni le mort, parce que c'était quand même des gens qui me tiraient dessus, ni les Américains. J'étais tout seul. J'étais journaliste. Il fallait que je raconte l'histoire. Je n'appartenais plus à un camp. Et ça, c'était un moment de grande solitude, en fait. Mais c'est comme ça qu'on devient journaliste.
Le jour où vous n'avez plus été invincible?
Mais j'espère que ce n'est pas encore arrivé. J'en sais rien. On ne pense pas à ça du tout. On n'a qu'une peur, c'est de louper le reportage ou de passer à côté de l'info, vraiment, de la bonne info, et ensuite de ne pas pouvoir la transmettre. Le reste, c'est de la littérature, c'est des inconvénients du métier, on n'en parle pas, on n'y pense pas. On sait que c'est dangereux, et alors on ne va pas en faire un plat.
Le jour où vous avez pensé à arrêter?
Jamais. Jamais, jamais, jamais. Non.
Le conflit qui vous aura le plus appris sur votre propre métier?
Je pense que dans ce métier, on apprend vraiment à chaque conflit, parce que les situations, même si elles se ressemblent, il y a toujours quelque chose de très minime qui change les choses. Et on est toujours, à un moment donné, Dieu merci, surpris par la tournure d'un événement, ou par une phrase, ou par un regard, ou par une image. Donc moi, il n'y en a aucun qui m'a appris définitivement quelque chose. C'est un peu comme en photo ou en film. Chaque fois qu'on propose un film ou un reportage à un journal ou à une télévision ou un papier, c'est un recommencement. Ils n'en ont rien à faire de ce que vous avez fait avant. On ne cumule pas les victoires en journalisme. C'est un renouvellement en permanence. En tout cas, dans notre partie du métier, je vais à l'armée, vous avez les décorations qui soulignent ce que vous avez fait. Moi, j'en ai aucune de décoration. Et si demain, je veux faire un film sur le sud de la Thaïlande où il y a des combats avec les musulmans, on va me rire au nez. Ce n'est pas mon expérience qui va me donner une priorité. Est-ce que le sujet est vendeur? Est-ce que le sujet est intéressant? Etc. On se bat tout le temps contre cette espèce de côté mercantile qui bâillonne la presse depuis très longtemps, quoi. Et l'expérience à ce moment-là et la notoriété ne sert à rien. Rien du tout. Elle sert plus sur le terrain, par contre. Mais c'est pas de la notoriété, c'est qu'on nous connaît. C'est-à-dire que quand je dis par exemple le conflit du Liban, c'est un conflit, mais j'y suis allé 20 fois. Quand je suis retourné en Afghanistan, là récemment, il y a 2 ans encore, les chefs talibans, ce sont des gens que j'ai connus en 80, qui se battaient contre les Russes, qui étaient les Moudjahidines. Et ils se sont radicalisés dans la religion, ils ont changé de bord, ils ont ça. Ceux qui ont survécu, on se connaît depuis plus de 20 ans. Dans l'armée israélienne, il y a des colonels à la retraite que j'ai connus simples soldats. Du côté du Hamas ou du côté du Front de Libération Palestinienne, c'est pareil, c'est des gens que j'ai connus, ils avaient 18 ans. Aujourd'hui, c'est des mecs en costard avec un bide. Donc, il ne faut pas oublier qu'un conflit, ça a une vie beaucoup plus longue que quand ça vit dans un journal. Un conflit ne s'arrête pas parce qu'on n'en parle plus.
Ce qui a fondamentalement changé dans la pratique de votre métier en 40 ans.
Il y a plusieurs choses qui ont changé. D'abord, c'est beaucoup plus facile qu'en tant que photographe, parce que les appareils font tout. Et en plus, pour envoyer les films, il n'y a plus ce problème. On peut envoyer des photos tous les soirs, de n'importe quel point dans le monde, même en plein milieu du désert. Il suffit d'un téléphone satellite et d'un ordinateur. Donc ça nous fait gagner 3 jours par semaine. Donc on peut travailler plus longtemps sur le terrain. Donc ça, c'est formidable. Alors, en négatif, il y a plus de monde et moins de fric. Mais bon, quand j'ai dit à mon père en 68, je voulais être reporter de guerre et être photographe, il m'a demandé si j'étais sûr que je voulais être pauvre toute ma vie. Et on était en 68. Donc déjà, apparemment, c'était un problème.
La photographie que vous n'auriez pas dû prendre ?
Je les prends toutes. Je ne les publie pas toutes. Je ne fais aucune censure sur le terrain. Parce qu'une photo qui n'est pas forcément publiable à l'instant même où elle a été prise, parce qu'elle va provoquer plus de mal que de bien, il faut la faire quand même, parce qu'elle peut servir. On ne travaille pas que pour la presse, on travaille aussi pour la mémoire collective, pour le TPI. Pour les livres d'histoire, pour les archives. J'ai comme exemple, il y avait un prêtre maronite au sud de Beyrouth, à Barmdoun. Les musulmans prenaient tous les villages abandonnés par Israël qui reculaient après 82. Israël, en 84, évacue une partie des zones occupées. Et tout le monde fonce pour récupérer les positions. Les musulmans prenaient tous les villages, pratiquement. Et les chrétiens reculaient, en fait. Et d'un seul coup, un prêtre a sauté sur une mitrailleuse, a poussé le mitrailleur. Il était en soutane et il a ouvert le feu sur la vallée. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui vous a pris ? Donc, j'ai fait la photo, démente. Et il m'a dit, je les ai vus brûler mon église dans le village en bas dans la vallée. Donc j'ai trouvé un chauffeur de taxi, foutu les films dedans. Le chauffeur a traversé la Becca. On est allé à Damas, trouver un avion, envoyer les films sur New York, pareil, le même machin. Je suis revenu le lendemain sur la position chrétienne, le prêtre m'a sauté dessus en me disant « Il faut absolument pas que cette photo passe ». Je dis « Comment ça ?» Il me dit « jusqu'à présent, les musulmans, quand ils prennent les villages chrétiens, ils respectent les hommes d'église. Ils leur font pas de mal. » Ça a bien changé aujourd'hui. Et donc, s'ils voient cette photo, ils vont tuer tous les hommes d'église. Donc j'ai appelé Sigma. C'était Henri Bureau qui était rédacteur en chef, un ancien photographe. Et je lui ai dit, écoute, dans la série là, sur les combats, tu verras, il y a 3 images où il y a un prêtre qui était venu bénir les troupes, qui s'énerve et qui ouvre le feu. Quoi. Il m'a dit, je sais, j'ai vu la photo, on vient de recevoir des films, c'était donc 3 jours après. C'est génial, Match veut faire 3 pages, Life aussi, ils font la double, Stern... J'ai dit non, tu l'enlèves. Il m'a dit mais ça va pas, enfin bref. J'ai dit tu l'enlèves, j'explique pourquoi. Il m'a dit ok, donc, on va pas faire tuer des gens pour une photo. Cette image, c'était pas une censure sur les événements. Les prêtres libanais ne participaient pas au combat. C'est juste ce type qui pendant 4 minutes est devenu fou. Il ne représentait que lui-même, même s'il représentait quelque chose comme ça, symboliquement, mais hors contexte, ça allait faire tuer des gens. C'est pas mon rôle. En revanche, 20 ans plus tard, j'ai raconté cette histoire, je l'ai foutu dans un bouquin, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas d'autre conséquence que la réflexion aujourd'hui sur ce qui s'est passé. Je ne vais pas faire tuer des gens pour une photo. Ou je ne vais pas faire de photo quand un type a besoin de mon aide, évidemment. Et là, on pose l'appareil, on lui tend la main. Et ça nous arrive beaucoup plus souvent qu'on le croit. Les photographes que je fréquente, on va dire, les journalistes écrits ou de télévision, si un type a besoin d'aide, c'est rare. Hein. Vous n'êtes jamais avec des gens qui sont seuls. Vous êtes toujours avec une patrouille, une dizaine de types qui sont ensemble, c'est des frères. Quand il y en a un qui est blessé ou qui est tué, il s'aide tout de suite. Vous n'avez quelquefois même pas le temps de faire l'image et il est déjà évacué. Or, faire l'image, c'est plus important que de l'évacuer et de gêner les autres qui vont l'évacuer de toute façon, parce qu'on témoigne de ce qui se passe. plutôt que de l'évacuer et de ne pas faire d'image. À ce moment-là, il ne s'est rien passé, en fait. Donc, s'il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de crime. Donc, il faut qu'on soit là, il faut qu'on fasse notre travail. Et on est là pour ça. On n'est pas là pour jouer les curés. Enfin, c'est pas une bonne expression, puisque les curés tirent, mais bon.
La photo que vous auriez dû prendre ?
Moi, j'aurais adoré prendre la photo du Che. C'était quelqu'un qui a complètement changé sa vie par passion. Quoi, c'était le fils d'un bourgeois, c'était presque un espèce de playboy qui avait tout pour lui. Quoi. Il était beau, il était d'une famille riche. Son père et sa mère étaient des gens brillants et qu'il adorait. Il a été médecin. Il aurait pu s'installer à Miami et vivre une vie magnifique. Il a préféré se commettre et suivre ses idées jusqu'au bout. Donc déjà, c'était un personnage dément. Puis il s'est mis en danger. J'ai rencontré son garde du corps, le dernier homme qui était avec lui quand il a été capturé, qui a été blessé pendant les combats et qui ensuite a voulu se jeter pour protéger le Che au moment où il allait être capturé et n'a pas pu le faire parce que la sangle de son sac à dos s'est accrochée à un buisson. Il a pris une balle dans l'épaule, et il s'est écroulé, et il n'a pas pu. Il serait mort s'il l'avait fait, évidemment. Et après, il a mis 2 mois à sortir du pays avec des vers sur la blessure. Mais il les gardait parce que ça nettoyait la blessure. Maintenant, ça grouillait dans sa plaie. Et je l'ai rencontré. Son surnom, c'est El Pipe. Il vit en banlieue parisienne. Il fait 1m85. Et il m'a raconté le Che. C'était son garde du corps. Il avait 16 ans à l'époque, lui. Il me raconte toute cette histoire. Et là, je vois le personnage qui est à la fois incroyablement romantique, très dur avec lui-même, c'est un asthmatique. Et les gens qui ont un problème comme ça sont très durs avec eux-mêmes, et donc très durs avec les autres aussi. Obsédé par l'éducation, il a éduqué ce type, qui était un orphelin de 16 ans, analphabète. Il lui a appris à lire, à écrire, à se battre, et à croire en quelque chose. Donc c'est ces personnages qui croient, qui m'intéresse. Et en plus, bon, toute l'histoire de la révolution cubaine est quand même exemplaire dans l'action romantique avec... le résultat, c'est discutable, hein, mais moi, je ne suis pas du tout pour les communistes, mais les révolutions, oui. Bon, il y avait des gens plus intéressants que le Che. Il y avait Cienfuego. En fait, ce n'est pas tellement une photo que j'ai ratée, c'est un événement, hein, à peu de choses près. C'était juste avant la guerre du Vietnam, en fait. J'étais trop jeune de 2-3 ans, si j'avais pu commencer à 15 ans. Oui, ça ou le débarquement avec Capa. Mon père a rencontré Capa pendant la guerre en Normandie, sur la plage. Mais mon père était soldat à ce moment-là. Et c'est vrai que j'aurais aimé qu'il y ait un film, j'aurais aimé entendre la voix de Robert Capa. Et voilà, c'était pareil, c'était un type qui croyait à ce qu'il faisait, qui était un peu fauché, qui était un peu fantasque. Il est mort en faisant un pas de côté en Indochine pour faire la meilleure photo. Quoi. Il s'est éloigné de son sujet alors qu'il disait « si la photo n'est pas bonne, c'est que tu n'es pas assez près ». Et là, il a fait un pas de côté pour être plus loin, pour faire toute la patrouille. Seulement sur le côté, il y avait des mines.
Un reporter qui a pu fonctionner comme modèle ou référence pour vous ?
Capa, c'est une référence parce qu'il avait de l'humour. C'est un joueur de poker. Il a eu une vie, on va dire, sentimentale, très agitée. Il voyageait beaucoup, il n'avait pas peur. Il rêvait. Ils ont créé Magnum, quand même. Il fallait oser. Le nom de l'agence Magnum a aujourd'hui une immense réputation. Ça a été créé, je crois, dans une espèce de bar, resto. Et ils l'ont appelé Magnum parce qu'il buvait un Magnum de champagne. Et c'était une espèce d'esprit libre, comme ça, frondeur. Mais des gens qui allaient loin, quoi. Ils mettaient leur vie en jeu. Pour moi, les reporters, c'est aussi des gens comme Monfred, hein, qui sont trafiquants d'armes, trafiquants d'or, écrivains, reporters. À l'époque où c'était pas encore un métier. Quoi. Dans l'écriture, Albert Londres, malgré ses idées un peu, qu'on pourrait appeler très démodées aujourd'hui, mais quelle faconde, quoi, quelle manière de raconter, quel bonhomme, quoi. Kessel, pour moi, c'est le grand reporter, comme Schoendorfer. Sont des gens qui racontent, ils écrivent, ils filment eux-mêmes comme caméraman, et ensuite ils font des longs métrages de fiction. L'ultime reportage, c'est le film de fiction. Hein. Regardez Blood Diamonds, d'un seul coup on parle que de ça, Il y a eu plein de documentaires hein, sur la vente des diamants qui finançaient les armes. Une fois qu'il y a eu le film avec DiCaprio, tout le monde était au courant, tout le monde en parlait. Les acteurs racontent, hein, comme nous. Hein. Ils sont des interprètes, mais nous aussi, on est les interprètes des gens à qui on parle. En fait, on est tous acteurs.
Un souvenir de terrain en Tchétchénie ?
Je suis tombé sur un caméraman tchétchène. Il n'y avait plus de chaussures. Il faisait moins 7. Il n'y avait plus d'électricité, plus d'eau, plus à bouffer. Enfin, c'est l'enfer. La ville était détruite à 80%. Ça bombardait sans arrêt. Et il filmait avec une caméra. Et à un moment donné, je lui ai fait remarquer que il avait le cash sur le truc. Et on était en plein combat. Quoi. Il me dit, je sais, mais je protège l'objectif. J'ai dit, certes, mais tu ne filmes rien. Il me dit, mais si tu remarques, j'ai pas de batterie non plus. Et puis, j'ai pas de cassette non plus. J'ai dit, ok. Je dis, alors, qu'est-ce que tu fais ? Il me dit, bah, c'est mon métier, je filme. Et en fait, la presse tchétchène avait été tuée à 95%. Et il savait pas quoi faire d'autre que filmer sans film et sans batterie. Mais juste filmer, quoi. Pour moi, ça, c'est un souvenir très, très fort du journaliste absolu, du type qui a envie de faire partie de l'histoire et de la raconter, quoi. Bah, tant pis, il n'a pas de batterie, quoi. Ce qui compte, c'est de le faire, quoi. Et il a eu raison, puisque je continue à raconter son histoire. Donc, il a eu raison, puisqu'il existe encore aujourd'hui à travers cette histoire. Ouais, la puissance des combattants tchétchènes et leur générosité au début était remarquable, absolument remarquable. Après, ils ont viré plus dans la religion extrême et poussé à bout. Des gens incroyablement courageux et dédiés. Quoi. Et la tristesse du petit soldat russe mort, qui savait pas, même pas où il était. Quoi. C'était ça le problème, c'était... Les petits soldats russes de 18 ans, raflés dans un dancing, ils m'ont expliqué, parce qu'ils se planquaient dans les campagnes pour ne pas être raflés. Et en fait, un soldat qui était mourant et qui est mort, qui devait avoir 18 ans, m'avait expliqué en pleurant qu'il ne voulait pas être dans l'armée, mais qu'il y avait eu un bal organisé par la mairie. Donc il est allé au bal, il n'avait jamais été dans un bal. Et quand ils avaient bu de la vodka avec tous les autres jeunes qui étaient venus de toute la région, et l'armée a encerclé le bâtiment à 4h du matin et les a foutus dans un train. 3 mois d'entraînement difficile et ensuite en Tchétchénie. Ils ne savaient même pas où était la Tchétchénie. Donc ils n'avaient aucune chance face à des combattants endurcis comme les Tchétchènes. Mais aucune chance. Cette guerre de Tchétchénie a été racontée, pas assez longtemps, et ça a été atroce. Quoi. Ce sont des gens très durs, les Tchétchènes. Mais qui au début étaient généreux. Bon, ils avaient quelques soucis d'image. Ils égorgeaient les prisonniers à la fin. J'ai essayé de leur expliquer que ce n'était pas forcément une bonne idée. Et ils ne comprenaient pas. Ils me disaient, mais un russe, il a tué ma famille. C'est cher, une balle. Donc je l'égorge. Le vendredi, quand c'était la pêche, j'égorgeais un mouton. Et un mouton, c'est gentil, hein, il ne m'a rien fait. J'en ai conclu que ce n'était pas la peine de discuter, en fait. Bah, c'est des mondes différents. Notre métier de journaliste, c'est de raconter ce qui se passe et d'essayer d'expliquer la différence aussi. Il faut remettre les choses dans le contexte. C'est très très difficile parce que évidemment nos photos arrivées dans Paris Match qui sont étalées entre une pub pour Rolex et une pour Toyota et puis ensuite une jolie mannequin à Saint-Tropez, c'est très très hors contexte quand même. Ça peut choquer quoi. Alors que dans le contexte, ce caméraman, ce Tchétchène qui me parle d'égorgé avec ses grands yeux noirs, Doudaïev qui m'explique comment ils vont vaincre les Russes, etc. Ça paraît presque normal sur le terrain. D'ailleurs, un des dangers d'être sur un conflit longtemps, très enfermé comme à Grozny où il n'y avait pas de moyen de sortir, c'est de perdre justement la distance avec le sujet et de rentrer dans la violence pure, dans les images, quoi, qui ne veulent plus rien dire en fait, si ce n'est la violence, quoi. Et Newsweek, souvent, il sentait ça. Et il voyait ça à mes photos et il demandait à Sigma, il disait, il faut qu'il sorte, maintenant. Il est passé de l'autre côté. Donc d'un seul coup, je recevais des telex ou d'autres journalistes qui arrivaient, parce que je ne pouvais pas communiquer, qui me disaient, Patrick, toi, tu rentres. Faut faire attention à la limite. Parce que un combattant, c'est sa cause. Et il y est. Nous, on vient de Paris, on arrive sur le terrain, et ensuite on repart, c'est sans arrêt en dents de scie. Faire attention quand on rentre, faire attention quand on sort, voilà. Mais il y a une méthode pour ça, c'est toujours la même chose, c'est de croire à ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on n'a pas de traumatisme évident chez ceux qui y croient. Les soldats américains ont été énormément traumatisés par le conflit du Vietnam, parce que quand ils sont rentrés chez eux, on les a traités de salauds. Et donc ils ont eu l'impression d'avoir fait et subi, et perdu leurs amis, et fait tout ça pour rien, quoi. Donc ça, c'est insupportable. Nous, on a encore l'illusion de croire que notre métier sert à quelque chose.
Patrick Chauvel, merci.
Le rendez-vous, la session.
Session pop, Lucille Comeau.
Oui, avec le jeune groupe Mayra & Mr. Mo, né de la rencontre entre Mayra, donc une chanteuse d'origine brésilienne, et puis le guitariste Mr. Mo, un groupe aussi bien inspiré par le jazz vocal des années 60 que par la guitare manouche. Ils étaient venus dans notre studio en novembre dernier et ils avaient enregistré un titre qu'on écoute ce soir, c'est Run. Mayra est au chant, Mr. Mo à la guitare et Paul à la batterie.
Just
Myra and Mr. Mo pour Run, un titre enregistré dans nos studios il y a quelques semaines. Je signale que l'EP Les Ardoines a paru chez X-Ray Productions.
19-20, le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Plateau famille avec vous, Thaïs Selassie, écrivaine, née à Londres d'un père ghanéen et d'une mère nigériane. Vous avez grandi aux États-Unis, vous vivez à Rome et à Berlin. Tout ça pour vous situer, on y reviendra. Vient de sortir en France votre premier roman, Le ravissement des innocents, chez Gallimard, paru en 2013, déjà traduit en 17 langues. C'est un long poème en prose qui s'ouvre sur la mort du père, au Ghana. Dans son jardin, c'est un chirurgien renommé qui a abandonné femme et enfant aux États-Unis. Un homme incapable de faire face à une humiliation, celle d'avoir été abusivement licencié par l'hôpital dans lequel il travaillait, Manu Farine.
Et tout le roman va dérouler l'impact de ce drame, donc à l'occasion de l'enterrement du père qui va réunir les quatre enfants, la mère avec son lot de souvenirs, de honte, on y reviendra aussi, d'histoire familiale, tout ça entre le Ghana, les États-Unis, l'Angleterre et le Nigeria. Un mot peut-être d'abord sur la construction de ce roman que vous comparez à une symphonie en trois mouvements qui correspondent donc aux trois grandes parties qui scandent le livre. Une partie, un mouvement donc chaotique, un mouvement rigide et un dernier mouvement ample avec apothéose et avec des motifs centraux qui reviennent. Qu'est-ce qu'une telle trame musicale, donc symphonique, vous permettait de mettre en place, Thaïs Selassie?
Traduction simultanée, Xavier Combes.
It's an interesting question. I think that on the one hand,
everything that I write is blatantly musical. Tout ce que j'écris est évidence d'ordre musical. C'est ainsi que j'aime lire, et même à mon insu, c'est ainsi que j'écris. Donc, je n'avais pas de choix. Il fallait que j'écrive un roman musical. Mais cette structure de symphonie, ça me permet de retravailler certains thèmes, certains motifs, mais toujours d'un point de vue différent. Ainsi, si on écoute du Mahler, du Tchaïkovski ou du Saint-Saëns, on entend les mêmes mélodies, mais jouées par différents instruments et à des rythmes différents. Ainsi, on peut entendre les mêmes notes, mais de façon radicalement différente. Et donc, c'est ce que j'essaye de faire lorsque je dépeins cette famille. On voit le point de vue des frères, des sœurs, du père, de la mère. Et on apprend que dans toute famille, à mon avis, le même événement peut être perçu de façon bien différente.
À nous.
Sonorité toujours dans le premier mouvement, donc dans ce premier chapitre qui porte le titre de « Retour » et qui raconte le retour du père au Ghana après avoir subi justement cette injustice. Donc il quitte les États-Unis, il rompt avec sa famille, il abandonne sa famille. Et à ce moment-là, vous placez une page totalement blanche sur laquelle apparaît un seul mot en haut à gauche, « silence, point ». Vous vous souvenez du moment où cette page s'est imposée, Thaïs Selassie, cette page silencieuse?
Absolutely.
Oui, je me souviens bien des circonstances, la page du silence. J'en étais arrivé à la fin de la première partie. J'ai écrit la dernière phrase de ce premier mouvement. Donc, il s'agissait d'un papillon qui virevolte et s'envole. Et le mot silence, je l'ai tapé sur le clavier. 6 mois plus tard, après une peine d'amour terrible et le syndrome de la page blanche, je me suis lancé dans l'écriture de la deuxième partie. Donc, je ne savais pas que le mot « silence » allait rester tout seul sur la page, mais il s'est passé beaucoup de temps entre l'écriture de ce mot et le début de l'écriture de la deuxième partie. C'est ainsi que ça s'est imposé. Donc, il y a cette imagerie de la silence, de ce silence, le silence auquel est confrontée la famille, et puis également le silence dans mon propre processus d'écriture, le silence que l'on a retrouvé entre la fin de la première partie et le début de la deuxième.
Comme à tous nos invités cette saison, on vous a demandé, Thaïs Selassie, d'apporter un son, et voici ce que vous avez choisi. Identification de ce son, Thaïs Selassie, et pourquoi l'avoir choisi?
That is the exquisite In a Sentimental Mood by John Coltrane.
In a Sentimental Mood.
At one point in the novel, Kokusai says,
à un moment,
to heal a broken heart,
dit,
there's only Coltrane on
guérir
that.
Un cœur qui a besoin d'être guéri, il n'y a que Coltrane. Je suis tout à fait d'accord. Ce morceau décrit la relation entre la musique et le récit littéraire. Lorsque l'on entend ces sept premières notes, du moins la première fois que moi j'ai entendu ces sept premières notes, elles ont imprimé mon tympan comme des mots auraient imprimé une page. C'est comme si le saxophone écrivait ou disait quelque chose. On entend ici aussi l'importance du silence. Quand j'écrivais, je disais à quel moment le lecteur devrait s'arrêter pour apprécier le silence, c'est impossible évidemment, mais j'essaye. Et juste avant que le sax entre, après l'introduction du piano, il y a une attente, une tristesse.
Vous-même, vous avez suivi une formation de pianiste et de violoncelliste jusqu'à l'âge de 18 ans, je crois. Vous avez même joué dans l'orchestre de Yale. Quel répertoire jouiez-vous à l'époque et qu'est-ce qu'il vous en reste aujourd'hui, Taïs Selassie?
I had a very traditional education in music.
Mes études musicales étaient très classiques. Du reste, je n'ai étudié que la musique classique.
In the piano, it was lots of Mozart,
j'ai joué beaucoup de Mozart, de Chopin, du Rachmaninoff. Et au violoncelle, il y avait également du Bach, du Saint-Saëns, les standards, dirait-on. Mais le violoncelle, c'est pas comme le vélo. Quand on pose le violoncelle, c'est très difficile de le reprendre. C'est très, très difficile de le reprendre. Mais au piano, je bénéficie de ce qu'on appelle la mémoire des muscles. Ma tête a peut-être oublié certaines choses, mais mes doigts s'en souviennent. Et je peux, s'il le faut, vous jouer une petite sonate sous la pression.
Le titre du roman Taïs Selassie, dans sa langue originale, donc en anglais, c'est « Ghana must go », traduit curieusement par « Le ravissement des innocents » en français, et je crois même peut-être dans d'autres langues. Comment est-ce que vous comprenez cet effet de traduction?
C'est pas si curieux. Because, dans le sens que...
Parce que tous les titres européens ne correspondent pas au titre anglais dans lequel il y a le mot Ghana. Donc, on ne voulait pas tromper le lecteur en le laissant croire qu'il pourrait y avoir un rapport avec la pauvreté, la guerre civile, les problèmes, tous les clichés que l'on associe à l'Afrique et que l'on voulait éviter dans la plupart des titres européens. Ces titres européens, parce que l'on essaye d'expliquer au lecteur que c'est un roman humain, un roman de famille et pas un roman africain. Alors que mes titres étrangers me plaisent beaucoup, je déteste la raison pour laquelle nous avons été obligés de les adopter.
Manu.
Dans la longue page de remerciements en fin de livre, Taïs Selassie, vous remerciez Dieu, on y reviendra, et puis tante, oncle, cousin et le professeur Toni Morrison. Qu'est-ce que vous lui devez à la fois comme lectrice et comme écrivain?
Lorsque j'ai quitté Oxford, j'ai eu l'honneur de rencontrer le professeur Morrison. Quelques années plus tard, je l'ai rencontré à nouveau et elle m'a dit à chaque fois que je vous vois, je veux que vous ayez un manuscrit à me donner. Mais ce n'est pas le cas. C'était la fin de l'année, j'étais avec ma sœur et ma mère, et elle m'a dit, devant votre famille, je voudrais que l'on se serre la main pour se mettre d'accord. Cet accord, c'est qu'à la fin de l'année prochaine, je lirai un manuscrit que vous aurez écrit. J'ai écrit mon premier opus de fiction, La vie sexuelle des filles africaines, et c'est en essayant de rendre cette nouvelle plus longue qu'est né ce roman, Le ravissement des innocents. Donc en tant qu'écrivaine, je ressens une reconnaissance sans fin pour cet ultimatum que m'a posé le professeur Morrison. Mais s'agissant de mon point de vue d'elle en tant que lectrice, eh bien je dirais que l'écriture de Toni Morrison, comment dire, elle tient en un mot, c'est magique. Les moments les pires de l'histoire américaine sont magnifiés.
is an act of incredible.
Et ça, je dois dire que c'est une immense intelligence et une grâce fabuleuse.
Manu, Farine venait de citer le fait que vous remerciez Dieu aussi dans les dernières pages de votre roman, à la page des remerciements. Qu'est-ce que ça dit des mécanismes de création et d'inspiration littéraire pour vous de remercier Dieu?
The singer, songwriter, poet, genius, Leonard Cohen.
Leonard Cohen, auteur-compositeur, interprète génial, dit que si je savais d'où venaient les bonnes chansons, j'irais plus souvent. Je m'y rendrais plus souvent. Et je crois que c'est vrai pour tous les artistes ce qu'il dit, parce que on ne sait pas très bien d'où vient l'art, mais on sait qu'il ne vient pas de nous. Moi-même, j'ai une forte vie spirituelle. Par conséquent, le récit, les personnages qui me viennent sont donnés en effet, donnés par un Dieu extrêmement bienveillant et généreux. Donc, ma spiritualité fait partie de ma vie et de mon travail, l'écriture, mais je ne ressens pas pour autant de la lourdeur. C'est une joie.
Manu.
Vous êtes né à Londres, vous avez grandi aux États-Unis, vous avez une mère donc d'origine nigériane, père ghanéen. Vous vivez un peu partout, hein, on l'a compris, Laurent le disait tout à l'heure. Et vous utilisez le terme d'afropolitaine pour vous qualifier, un terme que vous avez utilisé, je crois, pour la première fois dans un essai en 2005. Qu'est-ce que vous mettez dans ce terme-là? Contre quoi viendrait-il se positionner?
Well, I always laugh when I hear this question.
Ah, cette question, on me la pose assez souvent et je ris. Afropolitaine, parce que j'ai écrit 1000 mots pour répondre à cette question dans l'essai auquel vous faites référence. Qu'est-ce que quelqu'un d'afropolitain? Mais bon, je vais vous donner encore une explication brève. Dans l'essai, je décris une expérience très particulière et l'identité hybride qui peut en découler. Pendant longtemps, je disais que j'étais ghanéenne et nigériane et américaine et britannique. Et en 2005, lorsque j'ai rédigé cet essai, il m'est venu une pensée. Je me suis dit, je ne suis pas 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale 4. Je suis autre, je suis un cinquième élément qui n'émerge que de l'interaction de ces identités et qui constitue une identité en soi. Et cette identité, je l'appelle afropolitaine. Mais aujourd'hui même, j'ai parlé avec un journaliste indien qui m'a dit qu'il était indopolitain et j'ai rencontré différentes personnes qui comprennent bien cette expérience qui a été la mienne. Avoir une identité qui ressort des interstices entre ces différents éléments identitaires.
Manu.
L'un des personnages, Taïé Selassie, de votre roman transgresse d'une certaine façon. L'un des enfants devient écrivain dans une famille, devient artiste dans une famille, disons, de premier de la classe. Vous êtes devenue écrivaine dans une famille de médecins. Est-ce que cette question de la transgression s'est posée pour vous aussi?
Yeah, I can. It's interesting. I used to say that I am the black
sheep. Auparavant, je disais que je suis le mouton noir de la famille. Mon père est chirurgien, ma mère est pédiatre, ma sœur est médecin du sport, j'ai une jumelle. Et évidemment, je ne suis pas médecin. Mais plus j'ai réfléchi à cela, plus je me dis que je fais l'erreur que je rejette, en fait. Mes parents sont devenus médecins, non pas par choix, mais par nécessité. Ils ont pu avoir la bourse qui leur ont permis de quitter le Ghana et le Nigeria. C'était nécessaire pour eux, pour des raisons d'économie et d'instabilité politique. Donc c'était une obligation. Sinon, mon père était poète et du reste, il a publié des recueils de poèmes. Et ma mère dit qu'elle aurait été danseuse ou alors dans l'art floral. Ce n'est pas évidemment tout à fait propice pour envoyer ses enfants à Yale. Ma jumelle, qui est médecin du sport, est peintre et couturière. Donc voilà des médecins qui ont des impulsions créatives incroyables. Ça, c'est un aspect. Mais par ailleurs, je me suis également dit que peut-être que nous sommes tous motivés par les mêmes instincts. Ma mère, mon père, ma sœur sont dans le métier de la guérison, si je puis dire. Et pour moi, la littérature, c'est une sorte de guérison aussi.
Le soldat, le combattant, le civil, ils voient bien notre caméra. Hein, ils nous donnent ce qu'ils ont envie de nous donner. Quoi. Sans ça, ils font no picture. En fait, on est tous acteurs.
Merci à nos invités. Patrick Chauvel, Ceux du Nord, est publié aux éditions Les Arènes. Thaïs Selassie, Le ravissement des innocents, apparu aux éditions Gallimard. Et Myra and Mr. Mo, l'EP Les Ardoines, est disponible sous le label X-Ray Productions. Ça, c'était pour aujourd'hui. Et demain ?
L'année 2014,
la culture joue un rôle très particulier.
Vu par la culture.
Culture.
Est-ce que tout ceci n'est pas dérisoire ?
On ne peut jamais vraiment être son lecteur et on est un
dire positif sur la France.
Si on mettait un cadre doré
dans cette histoire du sexe,
ça devenait de l'art.
On domine par la culture, on résiste par la culture.
Et puis cela a une forme qui rappelle aussi un sextoy.
Demain, il faudra attendre lundi. Et lundi, ce sera le début d'une semaine spéciale Esprit de Noël avec 5 rendez-vous pour 5 tables rondes enregistrées lors du forum L'année vue par la culture le 6 décembre dernier au musée d'Orsay à Paris. Titre de la première rencontre, fiction, la France, obscur objet du désir avec 3 invités. Daniel Salnave de l'Académie française, le rappeur Amé, fondateur du groupe La Rumeur et Aurélien Bélanger, prix de Flore 2014 pour l'aménagement du territoire. Une table ronde que j'ai menée avec Lucille Comeau. Des annonces, Hippolyte.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Lucille Comeau, Manu Farine, Aïssatou Endoy et Hippolyte Babilote. Journal de la culture et supplément week-end, Zoé Spez et Benoît Lagagne. À l'interprétation, Xavier Combes. Merci aux techniciens de France Culture pour la prise de son et à la réalisation, Thomas Beau.
Il est 19h54, vous écoutez France Culture. C'est bien. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française. Alors bonne soirée à tous et bon week-end.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec Entrée Libre, ce soir à 20h15 sur France 5.